Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Cette émission est hebdomadaire, c'est une émission de cinéma. Nous sommes le 8 mai, bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à toi tout seul.
Ouais, et donc c'est la deuxième fois qu'il y a un jour férié, donc vous n'avez pas d'excuses, vous ne travaillez pas, donc vous pouvez aller au cinéma. Et on est là eh bien, pour vous parler de certains films, notamment eh bien, des films qui sont sortis la semaine dernière.
Oui, moi je vous parlerai de Stalker de Park Chan-wook. Ça sera l'occasion de revenir un petit peu sur sa carrière extrêmement intéressante. Et je vous parlerai exactement dans un tout autre registre d'un film israélien, Le cœur a ses raisons.
Et puis moi je vous parlerai d'un film qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Sous surveillance, film de Robert Redford, et on espère son dernier. Mais c'était l'occasion quand même de revenir sur sa carrière, et c'est pour ça que eh bien vous, chers auditeurs, et toi Marine particulièrement, tu pourras jouer un blind test spécial Robert Redford. Ah oui, tu fais la moue, donc j'ai l'impression que tu n'as pas révisé ton Robert Redford. D'accord. C'est Cinérama qui commence.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Et on commence avec Stalker. La jeune India vit avec sa richissime famille dans une vaste propriété. On mettra d'ailleurs, et c'est un parti pris intéressant, une bonne demi-heure avant de pouvoir réaliser que le film se passe à notre époque. Son père décède brutalement dans un accident de voiture et soudain son oncle, dont elle n'avait jamais entendu parler, apparaît. Sa mère endeuillée ne tarde pas à tomber sous le charme de cet homme très séduisant qui prend peu à peu une grande place dans la maison familiale, cuisinant, jardinant, couvrant la veuve de cadeaux. En même temps, un homme aussi parfait quand même, fallait se douter qu'il y avait un truc qui n'a n'allait pas aller. La jeune fille, plutôt farouche, se méfie aussitôt de cet intrus trop affable qui sent également naître pour lui une attirance irrépressible. D'autant que les nombreuses manipulations de son oncle semblent être destinées à créer des liens avec elle.
India, come and say hello to your uncle Charlie. I'm curious about what happened to my father. I don't know what you think you saw.
Maybe we could talk about your living here with Charlie like this.
It's a bad habit, you know.
Sneaking up on people?
Following uncles around.
What do you want from me?
To be friends.
We don't need to be friends. We're family.
Alors imaginez un film dont le scénario a été écrit par l'acteur de la série Prison Break, interprété par celle qui fut la Alice au pays des merveilles de Tim Burton et réalisé par le très sanglant et raffiné Park Chan-wook, révélation de Cannes il y a quelques années avec Oldboy. Le résultat est moins indigeste qu'on aurait pu le craindre. Le réalisateur coréen a su garder son style unique tout en respectant le cahier des charges d'un film hollywoodien, indépendant certes, mais quand même truffé de stars telles que Nicole Kidman. Alors le triangle amoureux qui se met en place sur fond d'inceste et d'adolescence est bien mené grâce à des personnages ambivalents et dont la personnalité ne cesse de se révéler et d'évoluer. On pourra reprocher aux comédiens, toutefois très bons dans leur double jeu, de surjouer un peu justement, mais cela est en partie la faute d'un cinéaste qui surfilme aussi. La mise en scène est très soignée, la construction des plans totalement maniaque et le sens du détail poussé à l'extrême. En effet, la jeune India voit tout et entend tout, privilège de son adolescence quelque peu autiste qui la pousse à observer sans cesse. Alors la caméra s'attache à son point de vue, filmant chaque élément intensément de façon à nous le faire voir de la même manière qu'elle, de même que le son est traité de façon exacerbée aussi, ce qui participe à la création d'un malaise ambiant. Une atmosphère perverse à souhait qui mêle étroitement Eros et Thanatos, dans laquelle l'éveil du corps est apparenté à une folie morbide. À noter une apparition très fugace de Harmony Korine en prof de dessin, ce qui n'est sans doute pas un hasard lorsque l'on connaît sa filmographie désabusée sur l'adolescence. Hormis quelques plans de trop, Park Chan-wook semble toujours autant affectionner les jets de sang sur les fleurs, entre autres, et une autosatisfaction manifeste de sa part qui est un peu agaçante. Stalker est quand même une réussite et un film assez unique en son genre, un thriller psychologique confine souvent aux films d'horreur et qui nous mène de twist en twist en prenant son temps, en prenant un peu trop son temps. Mais c'est quand même un film vraiment à voir, et en version originale, je crois qu'on ne peut pas le voir de toute façon en version française, ce qui n'est pas plus mal.
Bah, le film, oui. Ouais.
Enfin voilà, celui-là, en tout cas, c'est un film américain, mais quand même à voir... En VO.
Et sinon, Stalker, ça veut dire quoi?
C'est le nom de famille de la jeune fille, en fait. Elle s'appelle India Stalker.
Ah, mais est-ce que c'est une référence à... Il y a des jeux de
mots,
je
sais pas, mais il y a des jeux de mots sur son nom de famille à plusieurs reprises dans le film, en fait. Parce qu'en changeant des lettres, ça peut vouloir dire plein de choses, justement.
Donc, c'est pas le créateur de Dracula? Enfin, c'est pas une référence au créateur de...
Je ne sais pas. D'accord. En même temps, c'est vrai qu'il y a une ambiance assez gothique pendant tout le film, assez horrifique. Alors, peut-être que cela se pourrait, je ne sais pas.
Okay.
Cherchons des renseignements ultérieurement. Alors donc, Stalker, eh bien, c'est la première incursion américaine de Park Chan-wook, l'un des principaux ambassadeurs aujourd'hui du cinéma coréen. Il a démarré avec des films de gangsters, empreints d'un certain sens de l'humour typiquement asiatique, dont il ne se départira d'ailleurs pas lorsque sa carrière prendra le virage du thriller. Ses deux premières œuvres dans les années 90 ne feront pas date. Elles serviront surtout d'esquisse à son premier film majeur, Joint Security Hurry, en 2000. Un film dont l'intrigue se déroule à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et qui fera triomphalement le tour de nombreux festivals européens, ce qui signe habituellement le départ d'une carrière internationale pour les auteurs asiatiques. Habituellement. Mais c'est surtout grâce à sa trilogie de la vengeance que Park Chan-wook laissera une indélébile empreinte dans l'histoire du cinéma. Son style s'affine et s'affirme. Scène de violence extrême, ciselée par une caméra qui ne laisse rien au hasard, exploration des thèmes de la rédemption et de la vengeance, esthétisme des plans, le tout nappé de musique symphonique, souvent en parfait décalage avec l'action. La trilogie s'ouvre sur Sympathy for Mr. Vengeance et se clôture avec Lady Vengeance, mais c'est le second opus, All Boy, qui atteindra le rang de film culte et qu'on s'accroira son auteur. Un film tourné avec des stars coréennes et qui remportera le grand prix du Festival de Cannes présidé cette année-là par Quentin Tarantino.
Kang Chang-seok, Hwang Ju-yeon, Kim Na-song, Park Jin-ho, Im Do-kyun, Lee Jae-pyeong, Kook Soo-ran, Nuguya, non Nuguya ?
Je ne vous traduis pas, vous avez bien évidemment compris.
Il disait bonjour,
compris.
Je crois, non ?
Non, il est en train de dire « Je vais te niquer la gueule, bâtard, tu vas avoir mal ».
Ah.
T'avais pas compris ? Bon, tu perds un peu ton coréen, Vincent, faut se remettre dedans. Donc, à noter que dans All Boy, eh bien, c'est Choi Min-sik qui interprète le rôle principal, celui d'un homme enfermé sans savoir pourquoi durant 15 ans, tandis que dans le dernier volet de la trilogie, il joue à contrario le rôle du méchant. Park Chan-wook réutilise ainsi fréquemment les mêmes comédiens, comme par exemple la jeune actrice coréenne de Claude Atlas, Bae Doona, qui fut d'abord révélée en fait dans ses films avant de devenir une grande star. Alors, après cette trilogie très sombre et violente, il réalise Je suis un cyborg, une comédie sur fond d'hôpital psychiatrique, assez surprenante et qui ne fera pas à l'unanimité, d'autant que le cinéaste parle quand même à achever son film sur un bain de sang malgré son ton assez léger. Entre-temps, il aura également participé au film à sketch « Trois extrêmes », un titre qui convient d'ailleurs très bien, en la compagnie du japonais Takeshi Miike et du chinois Fru Chan. Son avant-dernier film « First » était très attendu il y a 3 ans de cela au Festival de Cannes. Il laissera pourtant un goût d'inachevé, trop foisonnante, pétrie d'influences multiples, partant dans des registres complètement hétéroclites. Cette histoire de prêtre devenu vampire assoiffé de sexe demeurera son chef-d'œuvre inabouti. Alors à voir à présent s'il poursuivra dans la voie américaine qu'il a donc empruntée avec Stalker. J'ai cherché, mais je n'ai trouvé aucune information en fait sur ses futurs projets. Donc je ne sais pas du coup tout ce qu'il nous prépare pour la suite.
D'accord, ce sera peut-être en Corée en tout cas. Enfin, la Corée a ce privilège d'avoir un peu comme en France... un cinéma qui est très bien aidé, et donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de réalisateurs qu'on connaît ici en Europe, comme tu le dis, ça peut lancer une carrière internationale et, y compris maintenant aux États-Unis effectivement. Merci Marine.
De rien.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Nous passons à Sous Surveillance, ce film de Robert Redford avec Robert Redford et puis Shia LaBeouf et Suzanne Sarandon. Sous Surveillance, le titre original, c'est The Company You Keep. Voilà. Donc, tu vas chercher le rapport. Tu as 20 minutes maintenant, d'ici la fin de l'émission, pour trouver le rapport. Donc c'est adapté d'un roman de Neil Gordon. L'histoire de sous-surveillance nous renvoie à l'époque de la lutte étudiante contre la guerre au Vietnam, soit la fin des années 60, où émergent des mouvements dont certains décident de franchir le pas de l'ultra-violence. En 1969, un groupe de militants appelé Weather Underground revendique une vague d'attentats et sont reconnus responsables d'un braquage qui tourne mal. Une personne alors en cavale depuis ces années-là, Sharon Sollars, se fait arrêter. Et 30 ans après, bien, le FBI est tenace, mais comme il s'agit bien du tout début du film, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Et donc pas plus le FBI qu'un jeune journaliste d'un journal local, interprété par Shia LaBeouf, qui décide de mener l'enquête pour découvrir pourquoi un avocat, interprété par Robert Redford, contacté peu avant l'arrestation de l'activiste, refuse de défendre l'accusé. Thriller parfois neurasthénique, sous surveillance, tire les fils d'une intrigue qui s'appuie sur une thématique oscillant entre la fin des idéaux et la sincérité. Il s'agit d'une cavale d'un homme de 70 ans et de ce point de vue-là, l'action est comparable à la foulée d'un Robert Redford qui n'a plus la force d'un quarantenaire gambadant dans la savane, une référence à Out of Africa. Son âge n'est pas vraiment un atout et n'est pas non plus un enjeu de mise en scène, il s'agit juste d'un paramètre. Ils ont ajouté un petit ingrédient puisque ce personnage de 76 ans, une fille de 10 ans. Donc on comprend qu'il veuille être peinard et qu'il ne se laisse pas emprisonner. Donc il gambade avec une petite foulée. Enfin, il y a quelques plans comme ça. Oui, c'est ainsi. Même s'il ne se passe pas grand-chose en tant que spectateur, on suit l'histoire de deux points de vue. Alors il y a celui du journaliste, et là son travail acharné pourrait faire penser à celui que pouvaient avoir Robert Redford et Dustin Hoffman dans Les Hommes du Président. Même si ce que vit ce brillant journaliste est à la limite du cliché. Nous suivons aussi donc l'homme en cavale qui fait le compte entre ses amis, ses anciens camarades de clandestinité, et replonge sentimentalement dans les années Pat Def.
FBI, ne bougez plus, les mains en l'air!
Je vous arrête pour le meurtre de Hugh Crosney.
Sharon Sollars, très longtemps sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, a été arrêtée hier, soit 30 ans après la célèbre attaque de banque qui avait coûté la vie à un agent de sécurité.
T'es en retard.
Au moins, quand je suis pas ici, on peut pas me virer. Qui est ton meilleur reporter?
Selon certaines sources, le terroriste suspecté Nicholas Sloan serait toujours en fuite.
Tu as toujours cet ami à toi au FBI?
Je suis pas sûr qu'elle m'adresse encore la parole.
Trouve-moi quelque chose et je te garde.
Qu'est-ce que tu as? Tu fais une de ces têtes?
Tout va bien, chérie.
Je pourrais juste voir ce dossier en souvenir du bon vieux temps.
Parce qu'on est sortis ensemble au collège, tu penses que je vais te donner accès aux écoutes du FBI?
Les écoutes?
T'as parlé à Jim Grant?
Qui est Jim Grant?
C'est un avocat.
C'est un père célibataire responsable? Un citoyen modèle?
J'ai rien pour faire un scoop.
Monsieur Grant, j'essaie de reconstituer le puzzle.
Je n'ai pas de temps à perdre.
J'ai fait son historique. Rien. Avant 79, ce type n'existe pas.
On est tous morts, mais certains ont refait surface.
On va pas à l'école. On va faire un petit voyage.
Il a l'habitude de fuir, ça veut dire qu'il a un avantage.
Les escaliers est! Ne bougez plus, restez où vous êtes!
Des jeunes gens de notre âge étaient massacrés par notre gouvernement. On a fait des erreurs, mais on avait raison.
On va les faire tomber, et j'espère ne pas vous trouver dans mes pattes.
Que comptez-vous faire?
Mon job. Le FBI a visité mon appart. Ils ont les boules parce que je fais leur boulot mieux qu'eux.
Vous vous apprêtez à faire beaucoup de mal à beaucoup de monde. Vous ne savez pas à quel point.
Je ne veux pas être mêlé à cette histoire.
Tu n'as pas tué cet homme.
Bien sûr que non.
S'il est coupable, rien de ce qu'il fait jusqu'ici n'a de sens.
Je l'ai. Vous avez le feu vert.
Je crois pas qu'il cherche à fuir. Je crois qu'il veut laver son honneur.
Les secrets sont dangereux, tout le monde veut les percer, mais ils nous révèlent des choses sur nous-mêmes. Vous, vous y êtes préparés?
La bande-annonce est visuellement trompeuse, hein. On pourrait avoir l'impression que l'action palpite à chaque plan, mais non, Sous surveillance est avant tout un thriller contemplatif où l'on ausculte un passé et où l'on est témoin d'une fuite qui nous amène à faire des étapes dans plusieurs états des États-Unis, histoire de nous montrer que les activistes des années 70 se retrouvent partout et dans toutes les couches de la société, sans doute. Alors Robert Redford voudrait-il aussi parler des États-Unis d'aujourd'hui, mais le constat est à peine esquissé. Le film est plutôt froid dans ses couleurs, avec une lumière contrarié sans être crépusculaire. Sous surveillance et d'une facture plutôt classique, il ne restera pas un grand souvenir, rien de fort qui emporte l'adhésion, d'autant que le scénario est un peu faiblard. Voilà, c'est pas la meilleure réalisation de Robert Redford, qui n'a jamais d'ailleurs vraiment brillé dans ses réalisations, mais nous allons quand même jouer avec Robert Redford. Il n'est pas là, mais nous allons jouer avec lui, c'est ça, c'est la beauté du cinéma. Et nous allons jouer donc avec des extraits sonores des films dans lesquels il a joué. c'est pour toi, Marine, et vous, chers auditeurs. On commence avec le premier extrait.
Enfin, la Bolivie ne doit pas être partout comme ça.
Et qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être le plus beau coin de tout le pays. Les gens font sans doute des centaines de kilomètres pour venir profiter de ce petit paradis paysan. C'est peut-être pour eux ce qu'est Atlantic City pour nous, tu devrais pouvoir nous le dire.
Écoute, j'en connais beaucoup plus sur la Bolivie que toi sur la ville d'Atlantic City, alors sois gentil, restons-en là.
Ah ah! Tu crois ça? Moi, je suis né à Atlantic City. J'ai été élevé à Atlantic City. J'y ai passé toute ma jeunesse. Alors...
Je ne savais pas que t'étais né dans l'Est.
Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici quand je pense que je t'ai suivi dans ce pays de sauvage?
Ne croyez pas que vous perdez votre temps. Si on passait aux choses sérieuses...
Ça suffit. Et puis ne commence pas à m'énerver parce que ça pourrait finir très mal. Toi, ton boulot, c'est de la fermer.
Quand il aura dévalisé une banque ou deux, il sera beaucoup plus calme.
Il parle très mal aux femmes dans ce film.
Ah, ouais, je n'ai pas trouvé.
Au moins sur cette séquence. Alors, j'ai pris un peu la filmographie dans l'ordre. Les voix françaises, ils ont été faites vraiment à peu de frais. Hein, parce que là, les voix ne sont pas très bonnes. C'est Paul Newman qui lui donne la réplique quand même. Donc, c'est Butch Cassidy et le Kid. Voilà. Film de 69 par George Roy Hill.
Votre femme ne vous aime pas. Elle ne vous a jamais aimé. C'est moi qu'elle aime.
Vous êtes complètement fou.
L'unique raison pour laquelle elle vous a épousé, c'est que j'étais pauvre. Elle en avait assez de m'attendre et ça a été son erreur. Au fond d'elle-même, elle n'a jamais aimé personne d'autre que moi.
Mais c'est une plaisanterie. Restez, Jordan, et Daisy m'aimait quand on s'est mariés, elle m'aime toujours.
Non.
Et si ça vous intéresse, je l'aime. Bon, je veux bien admettre que de temps en temps, elle est un peu perdue et qu'elle se laisse entraîner dans des choses qu'elle ne comprend pas. Moi aussi, ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie de faire des folies et de me comporter comme un imbécile. Mais je suis revenu chaque fois. Et au fond de mon cœur, j'ai toujours aimé ma femme.
Tu es vraiment révoltant. Tu te rappelles pourquoi on a quitté Chicago, hein? Tu n'as pas envie de leur raconter l'histoire de cette soi-disant petite folie?
Dis-lui la vérité. Simplement la vérité. Dis-lui que tu ne l'as jamais aimé et tout sera effacé pour toujours.
Oui. Comment aurais-je pu l'aimer?
Donc on dirait un peu un épisode de Santa Barbara ou de Côte Ouest.
Comment aurais-je pu l'aimer?
Et donc, c'est un film... Alors, tout petit indice, c'est un film qui va bientôt ressortir.
Oh non, surtout pas.
Alors, espérons qu'il y ait une nouvelle patte, hein, quand même. Film avec Leonardo DiCaprio, un remake.
Ah, c'est The Great Gatsby?
Voilà, tout à fait. D'accord. Et là, il a été réalisé par Jack Clayton en 1974. Un nouvel extrait.
J'ai un pote, un associé. C'est le chef du service central de la Western Union. Les résultats des courses passent tous par lui, et de son bureau, ça file ensuite chez les books. Il garde les résultats pendant deux petites minutes, le temps de nous les donner, ce qui permet de jouer le vainqueur. Il ne donne qu'ensuite le résultat au book. On met donc le paquet dans une course déjà faite. Ça ne loupe pas. Tant que les flics de la Western n'ont rien flairé.
Bon, là, ça donne une bonne indication, le dialogue. Et voilà. Enfin bon, après, c'est une arnaque
une
au bookmaker.
Course hippique.
Oui, une arnaque au bookmaker, c'est l'arnaque. De Sting en anglais, d'ailleurs, de Sting, je crois que c'est pas la traduction, donc de George Roy Hill encore, hein, sorti en 73. Et c'est toujours avec Paul Newman, hein. C'est toujours un duo.
Savez-vous que Félicité a souhaité m'accompagner? Et pour un peu, je disais non parce que j'ai cru que ça vous chiffonnerait, alors qu'il n'y a pas de raison de refuser.
Si, il y en a une, ça me chiffonnerait. Vous voulez qu'elle vienne?
Je veux que ce qui n'a pas de poids ne pèse pas.
Alors dites-lui non, faites cela pour moi.
Et ensuite, à quoi devrais-je me plier?
Pourquoi votre liberté est-elle plus importante que la mienne?
Erreur. Je me suis jamais immiscé dans votre liberté.
Non, vous, mais je n'ai pas le droit d'avoir besoin de vous, de compter sur vous, ou d'attendre quoi que ce soit de vous. Libre de partir, ça oui. Mais j'ai tant besoin de vous.
Vous n'avez pas besoin de moi. Si je meurs, mourrez-vous? Vous n'avez pas besoin de moi. Vous confondez, vous mélangez besoin et manque. C'est constant chez vous.
Mon Dieu, dans le monde que vous vous bâtiriez, l'amour n'aurait pas de place.
Si, l'amour serait roi et cet amour se passerait de preuve.
Alors vous vivriez sur une autre planète.
Pourquoi? Parce que je n'en passe pas par vos caprices? Est-ce que par principe, il n'y a qu'une seule bonne façon de vivre cela? Croyez-vous que je tienne à Félicité?
Non.
Ou que j'aurai une liaison avec elle?
Non.
Alors aucune raison de discuter.
Si elle n'est pas importante, pourquoi n'y renoncez-vous pas?
Un homme épris de liberté, c'est...
Out of Africa.
Absolument.
C'est les grillons derrière qui...
Film donc de Sidney Pollack qui a cartonné, hein, film de 85 qui a remporté énormément d'Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleure photo, meilleure direction artistique, meilleure musique et meilleur son. Voilà, la radia totale.
Acteur par contre, non.
Ah non. Non. Bon là c'est une VF, hein. Sinon c'était plutôt marquant en tout cas comme film. Un nouvel extrait.
Vous avez quelque chose que je n'ai pas.
On dit que l'argent peut tout acheter, mais il y a des limites.
Pas tant que ça.
Certaines choses ne sont pas à vendre.
Lesquelles?
Oh, les gens, par exemple.
Vous êtes bien naïve. J'achète des gens tous les jours.
En affaires, c'est possible, mais pas quand les émotions sont en jeu.
Vous voulez dire qu'on n'achète pas l'amour? Ça fait un peu cliché, vous ne trouvez pas?
C'est pourtant la vérité.
Ah ouais? Qu'est-ce que vous en dites?
Je suis d'accord avec Diana.
Vraiment?
Alors,
ouais, c'est une proposition indécente.
Oui.
Quand il propose au mari de Demi Moore $1 million pour coucher avec sa femme.
Tout à fait.
J'ai jamais vu le film jusqu'au bout, en fait, donc je ne sais pas comment ça se termine.
Moi non plus.
Je
crois que l'honneur est sauf.
Oui, ouais. J'imagine. Et la morale aussi.
Oui, évidemment. Film d'Adrienne Lynn, donc ça, c'est un film de 92. Un nouvel extrait.
Bon, c'est gentil à vous de me rappeler.
Est-ce que je peux vous être utile, madame?
Oui. Voilà. J'ai lu un article dans lequel on parlait de ce que vous faites pour les propriétaires qui ont des chevaux à problème.
Ah, j'aide plutôt les chevaux qui ont des propriétaires à problème.
Oui, ce qui revient à peu près au même. Dans cet article, on dit que vous êtes un chuchoteur.
Ah, ils ont écrit ça, un chuchoteur.
Ah, il y a un petit indice, non?
C'était L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, le voilà. Premier film de Scarlett Johansson. Et là, c'était...
Toute jeune.
C'était Christine Scott Thomas qu'on entendait, qui fait sa mère.
Tout à fait. Et Robert Redford qui joue dedans et qui réalise aussi ce film qui est une adaptation.
Mais tu n'as pas mis Spy Games?
Non. Mais il y en a plein d'autres que je n'ai pas mis. Et ce sera pour le prochain blind test. C'est un des
rares que j'avais vu.
Parce qu'on pourra refaire un blind test Robert Redford, puisque je l'ai vu. Il devrait jouer dans Captain America, le prochain Captain America.
Oh, donc quand
et
même.
Oui, et si.
À son
alors,
âge
après, et oui. Alors que va-t-il jouer? Un méchant, un gentil? Je pense un gentil. Et c'est le dernier extrait. Alors là, c'est juste pour la blague.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici.
Et moi, pour les gonzesses, je suis super d'accord avec toi. Mais pour la bouffe, je vois pas ce que tu veux dire. T'aurais envie de manger quoi, exactement?
Bah, je sais pas, par exemple, une quiche Lorraine.
Une wish.
Une quoi?
On dit une wish Lorraine.
T'es sûr? Ça fait bizarre, wish Lorraine.
Alors, c'est les voix...
Ou
les
bien
voix,
manger des chips.
Donc, ça a été trouvé, c'est le...
Grand détournement.
Oui,
mais Bruno l'avait trouvé avant.
Avec des voix, donc les voix françaises qui doublent habituellement Robert Redford et Dustin Hoffman. Et puis là, ce sont des images, eh bien, carrément des hommes du président, hein, enfin, qui servent pour ce film qui compile eh bien, tout un tas d'autres films. Je crois que c'était le stock de l'Universal, voilà, par des gens de Canal+.
Par Michel Hazanavicius.
Oui.
C'était lui qui avait réalisé.
Qui avait, ouais.
Avant de faire The Artist, bien longtemps avant.
Non. En tout cas, c'est très bon. Voilà, ainsi s'achève ce blind test.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
On poursuit avec Le cœur a ses raisons. Alors, c'était annoncé comme un renouveau dans le cinéma israélien, puisqu'il s'agit du premier film ultra-orthodoxe à arriver en France. On a connu une certaine vague de films critiques à l'égard du conflit israélo-palestinien ou bien concernant le poids de la religion juive. Ce film prend cette vague totalement à contre-pied, montrant au contraire la vie au sein de la communauté hassidique et faisant clairement l'éloge d'une vie pieuse et menée en vase clos. Son auteur, Rama Burstein, est elle-même une juive ultra-orthodoxe qui a décidé de se tourner vers la religion après des études de cinéma. Alors, bon, je sais pas, moi je pense pourtant que les deux sont aussi vains, mais bon, cinéma, religion, pareil. Elle a alors travaillé dans le cinéma dit haredi, c'est-à-dire destiné en fait à un public féminin et très religieux conçu sous haute surveillance rabbinique. Le cœur a ses raisons est en quelque sorte issu de cette formation cinématographique, mais destiné à un large public international. C'est donc l'histoire de Shira, une jeune fille de 18 ans, décidément, à qui on a promis qu'elle se marierait très prochainement, un mariage évidemment arrangé et agréé par le rabbin qui veille sur la communauté juive au sein de laquelle elle vit. Mais sa sœur, qu'elle idolâtre, meurt en couche, laissant un nouveau-né et un mari bien déprimés. Ni une ni deux, il est donc question de marier Shira avec son beau-frère, afin qu'il ne reste pas célibataire plus de 2 semaines, d'autant qu'il n'a pas l'air de savoir comment changer les couches. À noter que la seule femme dans le film qui ne s'est jamais mariée, c'est celle qui n'a pas de bras. C'est pour ça qu'elle s'est jamais mariée, parce qu'elle peut rien faire, elle peut pas faire la cuisine, elle peut rien faire, elle a aucune utilité. Bref, 2 heures vont ainsi passer à se demander si la gamine de 18 ans va se marier avec le mari de sa sœur qui a le double de son âge et ainsi coiffer au poteau toutes les prétendantes qui rôdent telles des vautours autour du veuf pas si éploré que ça. Et tout le monde trouve ça très normal dans le film, hein, c'est normal. Alors on a quelque peu du mal à comprendre pourquoi ce long métrage a été primé à la Mostra de Venise. C'est long, c'est poussif. Il possède en plus une photographie digne des pires heures du soap américain, avec notamment des filtres utilisés à outrance qui adoucissent tous les contours et des lumières très travaillées pour rendre les teintes pastels. Alors au mieux, ça nous remémore amour, gloire et beauté. Et au pire, ça fait penser aux vieux téléfilms érotiques qui passaient sur M6 le dimanche. Alors bien sûr, la réalisation est sensible, c'est très axé sur les femmes, mais le ton est trop prosélyte pour prendre le pas sur l'intérêt culturel. Alors malgré tout, le film a été un énorme succès en Israël, à voir s'il plaira à d'autres publics. Le Monde a trouvé un très bon titre, en tout cas pour l'article qui parle du film. Il a intitulé « Mariage arrangé, le film pour tous ». C'est exactement ça. Mmh. Voilà, c'est comment faire croire au monde entier que c'est tout à fait normal de vivre comme ça et d'organiser des mariages avec des filles à peine majeures. Mmh. Bon, voilà, donc malheureusement... Voilà, on sent que le film a été fait par la personne qui l'a fait et ça manque un peu de regard critique. Et du coup, voilà, l'aspect culturel n'est même pas tellement présent, quoi. Ça parle uniquement de Dieu, de religion, d'investissement. C'est que ça.
Et c'est quel est le prix qu'elle a remporté à la Mostra de Venise ?
Je ne sais pas, je crois que l'actrice a été primée.
Ah, juste là.
Et je ne sais pas s'il y a eu que elle. Mais en tout cas, elle c'est sûr, elle a eu quelque chose.
Alors on aurait pu parler d'Evil Dead, je vois qu'on a un tout petit peu de temps, Evil Dead, mais Manu est pas là, donc j'aurais bien aimé parler sous son contrôle parce que je l'ai vu avec lui et que c'est plutôt lui le spécialiste de ce genre de film. En tout cas, si vous aimez l'ultra-violence, si vous avez plus de 16 ans quand même si dans la salle on a vu plein de d'ados de 12 ans même, je crois.
Bravo.
Oui, mais c'est comme ça. Et donc, si vous aimez les images un peu violentes, effectivement, Evil Dead est pour vous sans doute moins bon que l'original de Sam Raimi, mais n'empêche, voilà, produit par Sam Raimi. Donc, je pense qu'il a eu aussi une espèce de regard sur le résultat final. Avec un film qui est très surligné au niveau sonore, avec des effets d'image, avec beaucoup de sang. Et puis des choses improbables, hein. Enfin, avec une personne qui se fait blesser dès les premières minutes et qui est jusqu'à la fin.
Et qui est là jusqu'à la fin. Ah, mais apparemment, en tout cas, les fans du cinéma de genre sont hyper enthousiastes quant à ce film. Il était très, très attendu,
déçu,
c'est vrai.
Finalement.
Oui, mais toi, tu n'es pas un.
Non, mais
un
parce
fan
que j'étais à côté, moi,
genre.
J'étais le moins déçu des trois, en fait, parce que je savais, enfin, je me doutais de ce que j'allais voir, quoi. Enfin, voilà, c'est un film de 2013 avec des effets sonores de 2013. Le son était très fort, en plus, c'était une VF, donc voilà, très impressionnant, avec des petits cris qu'on entend à droite à gauche, quand même. Voilà. Evil Dead. Au Gaumont Multiplex, ainsi s'achève presque Cinérama.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Nous passons à l'agenda avec au Diagonal, demain jeudi 9 mai à 21h50, eh bien, La nuit des morts vivants de Georges Romero. C'est une version forcément originale, sous-titrée et surtout remasterisée. Et c'est organisé par l'association des étudiants du master métier de la production cinéma pour financer un voyage d'études au marché du film à Cannes. Voilà.
Donc c'est...
Ben oui, mais c'est...
pour faire un voyage, super mauvaise idée.
Soutenez-les. Vendredi au Ciné Comédia 7, c'est le Ciné Club Ciné C'est Toi. Ce sera le film d'Alfred Hitchcock, Psychose, qui sera projeté. À l'Utopia, dimanche 12 à 10h30, c'est La double face de la monnaie. C'est un documentaire de Jérôme Polydor et Vincent Gaillard, voilà, qui retrace l'histoire de la monnaie et son importance dans notre monde. Et on peut. Maintenant, le lundi 13 mai à 9h30, mon Dieu que c'est tôt, The Sessions de Ben Lewin, quand même prix du public au Festival de Saint-Sébastien. C'est autour de l'assistance sexuelle des personnes handicapées, voilà. Et donc ça, ce sera au Diagonal à 9h30. Le soir, dans ce même Diagonal... 13h40 maintenant. Senso de Luchino Visconti. Et puis ensuite, vous pourrez aller à l'Utopia à 20h30, pareil, le 13 mai, pour voir Colonialisme. C'est une projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur Souma Coli, qu'on reçoit de temps en temps ici à Divergence. C'est en 52 minutes un documentaire qui donne à travers une galerie de portraits contemporains la parole aux jeunes Français d'origine diverse qui se prononcent selon leur sensibilité donc sur le passé colonial. Lundi 13 mai, encore une fois, au Diagonal. Il me semblait bien qu'il y en avait un autre au Diagonal. À 20h, c'est la première avant-première du Festival Arabesque avec Mille feuilles de Nouri Bouzid. Et il y en aura une seconde le lendemain à 20h aussi, le 14 mai. Combien tu m'aimes de Fatma Zora Zamoum. Et la réalisatrice sera présente. Et puis on termine avec un ciné-débat au Ciné Mistral le mardi 14 mai à 20h30. Le thème de ce ciné-débat, adaptation littéraire au cinéma. Et ce sera le film L'écume des jours de Michel Gondry qui a déjà été chroniqué dans cette émission.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, on aura récupéré Manu, qu'on a fait partir en Normandie, là où il fait vert et il pleut encore.
Mm-hmm. Et à suivre, l'émission 24 notes secondes sera consacrée aujourd'hui à Jacques Hébert. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.